archéologie, collections diverses, curiosités, etc. Une lisière de mousse bordait un chemin creux, ombragé par des frênes dont les cimes légères tremblaient. Des angéliques, des menthes, des lavandes exhalaient des senteurs chaudes, épicées. L'atmosphère était lourde et Pécuchet, dans une sorte d'abrutissement, rêvait aux existences innombrables éparses autour de lui, aux insectes qui bourdonnaient, aux sources cachées sous le gazon, à la sève des plantes, aux oiseaux dans leur nid, au vent, aux nuages, à toute la nature, sans chercher à découvrir ses mystères, séduit par sa force, perdu dans sa grandeur. J'ai soif, dit Bouvard en se réveillant. Oh, moi de même, je boirais volontiers quelque chose. C'est facile, reprit un homme qui passait en manche de chemise, avec une blanche sur l'épaule. Et ils reconnurent ce vagabond à qui Bouvard autrefois avait donné un verre de vin. Il semblait de 10 ans plus jeune, portait les cheveux dans la croche-cœur, la moustache bien cirée et dandinait sa taille d'une façon parisienne. Après 100 pas environ, il ouvrit la barrière d'une cour, jeta sa planche contre un mur et les fit entrer dans une haute cuisine. Mélie, es-tu là, Mélie? Une jeune fille parut. Sur son commandement, elle attirait de la boisson et revint près de la table servir ces messieurs. Ses bandeaux, de la couleur des blés, dépassaient un béguin de toile grise. Tous ses pauvres vêtements descendaient le long de son corps sans un pli, et le nez droit, les yeux bleus, elle avait quelque chose de délicat, de champêtre et d'ingénu. Elle est gentille, hein? Dit le menuisier pendant qu'elle apportait des verres. Si on ne jurerait pas une demoiselle, costumée en paysanne et rude à l'ouvrage pourtant. Pauvre petit cœur, va, quand je serai riche, je t'épouserai. Vous dites toujours des bêtises, monsieur Gorju, répondit-elle d'une voix douce, avec un accent traînard. Un valet d'écurie vint prendre de l'avoine dans un vieux coffre et laissa retomber le couvercle si brutalement qu'un éclat de bois en jaillit. Gorju s'emporta contre la lourdeur de tous ces gars de la campagne, puis, à genoux devant le meuble, il cherchait la place du morceau. Pécuchet, en voulant l'aider, distingua sous la poussière des figures de personnages. C'était un bahut de la Renaissance, avec une torsade en bas, des pampres dans les coins, et les colonnettes divisaient sa devanture en 5 compartiments. On y voyait au milieu Vénus à la Diomède, debout sur une coquille, puis Hercule et Omphale, Samson et Dalila, Circé et ses pourceaux, les filles de Lot enivrant leur père, tout cela délabré, rongé de mythes, et même le panneau de droite manquait. Gorju prit une chandelle pour mieux faire voir à Pécuchet celui de gauche, qui présentait sous l'arbre du paradis Adam et Ève dans une posture fort indécente. Bouvard également admira le bahut. Oh, si vous étonnez, on vous le céderait à bon compte. Ils hésitaient, vu les réparations. Gorju pouvait les faire, étant de son métier ébéniste. Allons, venez. Et il entraîna Pécuchet vers la masure où Madame Castillon, la maîtresse, étendait du linge. Mélie, quand elle eut lavé ses mains, prit sur le bord de la fenêtre son métier à dentelle, s'assit en pleine lumière et travailla. Le linteau de la porte l'encadrait, les fuseaux se débrouillaient sous ses doigts avec un claquement de castagnettes, son profil restait penché. Bouvard la questionna sur ses parents, son pays, les gages qu'on lui donnait. Elle était de Ouistreham, n'avait plus de famille, gagnait une pistole par mois. Enfin, elle lui plut tellement qu'il désirait la prendre à son service pour aider la vieille Germaine. Pécuchet reparut avec la fermière et, pendant qu'ils continuaient leur marchandage, Bouvard demanda tout bas à Gorju si la petite bonne consentirait à devenir sa servante. Parbleu! Ah, toutefois, dit Bouvard, il faut que je consulte mon ami. Eh bien, Je ferai en sorte, mais n'en parlez pas à cause de la bourgeoise. Le marché venait de se conclure, moyennant 35 francs. Pour le raccommodage, on s'entendrait. À peine dans la cour, Bouvard dit son intention relativement à Mélie. Pécuchet s'arrêta, afin de mieux réfléchir. Ouvrit sa tabatière, huma une prise et s'étant mouché. Au fait, c'est une idée, mon Dieu, oui, pourquoi pas? D'ailleurs, tu es le maître. 10 minutes après, Gorgus se montra sur le haut bord d'un fossé et les interpellant. Quand faut-il que je vous apporte le meuble? Demain? Et pour l'autre question, êtes-vous décidé? Convenu, répondit Pécuchet. 6 mois plus tard, ils étaient devenus des archéologues et leur maison ressemblait à un musée. Une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule. Les spécimens de géologie encombraient l'escalier et une chaîne énorme s'étendait par terre tout le long du corridor. Ils avaient décroché la porte entre les deux chambres où ils ne couchaient pas et condamné l'entrée extérieure de la seconde pour ne faire de ces deux pièces qu'un même appartement. Quand on avait franchi le seuil, on se heurtait à une auge de pierre, un sarcophage gallo-romain. Puis les yeux étaient frappés par de la quincaillerie. Contre le mur en face, une bassinoire dominait deux chenets et une plaque de foyer qui représentait un moine caressant une bergère. Sur des planchettes tout autour, on voyait des flambeaux, des serrures, des boulons, des écrous. Le sol disparaissait sous des tessons de tuiles rouges. Une table au milieu exhibait les curiosités les plus rares. La carcasse d'un bonnet de cauchoise, deux urnes d'argile, des médailles, une fiole de verre opalin. Un fauteuil en tapisserie avait sur son dossier un triangle de guipure, un morceau de côte de maille ornait la cloison à droite et en dessous, des pointes maintenaient horizontalement une hallebarde, pièce unique. La seconde chambre, où l'on descendait par deux marches, renfermait les anciens livres apportés de Paris et ceux qu'en arrivant, ils avaient découverts dans une armoire. Les vantaux en étaient retirés, ils l'appelaient la bibliothèque. L'arbre généalogique de la famille Croimard occupait seul tout le revers de la porte. Sur le lambris, en retour, la figure au pastel d'une dame en costume Louis XV faisait pendant au portrait du père Bouvard. Le chambranle de la glace avait pour décoration un sombrero de feutre noir et une monstrueuse galoche pleine de feuilles, les restes d'un nid. Deux noix de coco, appartenant à Pécuchet depuis sa jeunesse, flanquaient sur la cheminée un tonneau de faïence que chevauchait un paysan. Auprès, dans une corbeille de paille, il y avait un décime rendu par un canard. Devant la bibliothèque se carrait une commode en coquillage avec des ornements de peluche. Son couvercle supportait un chat tenant une souris dans sa gueule, pétrification de Saint-Alyre, une boîte à ouvrage en coquille mêmement et sur cette boîte une carafe d'eau de vie contenait une poire de bon chrétien. Mais le plus beau, c'était dans l'embrasure de la fenêtre une statue de Saint-Pierre. Sa main droite, couverte d'un gant, serrait la clé du paradis, de couleur vert pomme. Sa chasuble, que des fleurs de lys agrémentaient, était bleu ciel. Et sa tiare, très jaune, pointue comme une pagode. Il avait les joues fardées, de gros yeux ronds, la bouche béante, le nez de travers et en trompette. Au-dessus pendait un baldaquin fait d'un vieux tapis où l'on distinguait deux amours dans un cercle de roses et à ses pieds, comme une colonne, se levait un pot à beurre portant ces mots en lettres blanches sur fond chocolat exécuté devant S.A.R. Monseigneur le duc d'Angoulême à Noron le 3 d'octobre 1817. Pécuchet de son lit apercevait tout cela en enfilade. Et parfois même il allait jusque dans la chambre de Bouvard pour allonger la perspective. Une place demeurait vide en face de la côte de maille, celle du bahut Renaissance. Il n'était pas achevé Gorju y travaillait encore, varlopant les panneaux dans le fournil et les ajustant, les démontant. À 11 heures, il déjeunait, causait ensuite avec Mélie et souvent ne reparaissait plus de toute la journée. Pour avoir des morceaux dans le genre du meuble, Bouvard et Pécuchet s'étaient mis en campagne. Ce qu'ils rapportaient ne convenait pas, mais ils avaient rencontré une foule de choses curieuses. Le goût des bibelots leur était venu, puis l'amour du Moyen-Âge. D'abord, ils visitèrent les cathédrales, et les hautes nefs se mirant dans l'eau des bénitiers, les verreries éblouissantes comme des tentures de pierreries, les tombeaux au fond des chapelles, le jour incertain des cryptes, tout jusqu'à la fraîcheur des murailles, leur causa un frémissement de plaisir, une émotion religieuse. Bientôt, ils furent capables de distinguer les époques. Et, dédaigneux des sacristains, ils disaient « Ah, une abside romane ! Oh, cela est du XIIe siècle ! Voilà que nous retombons dans le flamboyant !» Ils tâchaient de comprendre les symboles sculptés sur les chapiteaux, comme les deux griffons de Marigny becquetant un arbre en fleurs. Pécuchet vit une satyre dans les chantres à mâchoires grotesques, qui termine les cintres de Feugerolles, et pour l'exubérance de l'homme obscène couvrant un des meneaux d'Hérouville, cela prouvait, suivant Bouvard, que nos aïeux avaient chéri la gaudriole. Ils arrivèrent à ne plus tolérer la moindre marque de décadence. Tout était de la décadence, et ils déploraient le vandalisme, tonnaient contre le badigeon. Mais le style d'un monument ne s'accorde pas toujours avec la date qu'on lui suppose. Le plein cintre au XIIIe siècle domine encore dans la Provence. L'ogive est peut-être fort ancienne. Et des auteurs contestent l'antériorité du roman sur le gothique. Ce défaut de certitude les contrariait. Après les églises, ils étudièrent les châteaux forts, ceux de Domfront et de Falaise. Ils admiraient sous la porte les rainures de la Herse, et, parvenus au sommet, ils voyaient d'abord toute la campagne, puis les toits de la ville, les rues s'entrecroisant, des charrettes sur la place, des femmes au lavoir. Le mur dévalait à pic jusqu'aux broussailles des douves, et ils pâlissaient en songeant que des hommes avaient monté là, suspendus à des échelles. Ils se seraient risqués dans les souterrains, mais Bouvard avait pour obstacle son ventre et Pécuchet la crainte des vipères. Ils voulurent connaître les vieux manoirs, Curcy, Bully, Fontenay-le-Marmion, Argouges. Parfois, à l'angle des bâtiments, derrière le fumier, se dresse une tour carlovingienne. La cuisine, garnie de bandes en pierre, fait songer à des ripailles féodales. D'autres ont un aspect exclusivement farouche, avec leurs trois enceintes encore visibles, des meurtrières sous l'escalier, de longues tourelles à pans aigus. Puis on arrive dans un appartement où une fenêtre du temps des Valois, ciselée comme un ivoire, laisse entrer le soleil qui chauffe sur le parquet des grains de colza répandus. Des abbayes servent de granges. Les inscriptions des pierres tombales sont effacées. Au milieu des champs, un pignon reste debout, et du haut en bas est revêtu d'un lierre que le vent fait trembler. Quantité de choses excitaient leur convoitise, un pot d'étain, une boucle de strass, des indiennes à grand ramage. Le manque d'argent les retenait. Par un hasard providentiel, ils déterrèrent à Balleroy, chez un étameur, un vitrail gothique qui fut assez grand pour couvrir près du fauteuil la partie droite de la croisée jusqu'au deuxième carreau. Le clocher de Chavignolles se montrait dans le lointain, produisant un effet splendide. Avec un bas d'armoire, Gorju fabriqua un prie-dieu pour mettre sous le vitrail, car il flattait leur manie. Elle était si forte qu'ils regrettaient les monuments sur lesquels on ne sait rien du tout, comme la maison de plaisance des évêques de Sées. Bayeux, dit monsieur de Caumont, devait avoir un théâtre. Ils en cherchèrent la place inutilement. Le village de Montrécy contient un pré célèbre par des médailles d'empereurs qu'on y a découvertes autrefois. Il comptait y faire une belle récolte. Le gardien leur en refusa l'entrée. Ils ne furent pas plus heureux sur la communication qui existait entre une citerne de falaise et le faubourg de Caen. Des canards qu'on y avait introduits reparurent à Vaucelles en grognant « Caen, 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 d'où est venu le nom de la ville ?» Aucune démarche ne leur coûtait, aucun sacrifice. À l'auberge de Ménilvillemont en 1816, M. Galeron eut un déjeuner pour la somme de 4 sols. Ils y firent le même repas et constatèrent avec surprise que les choses ne se passaient plus comme ça. Quel est le fondateur de l'abbaye de Sainte-Anne ? Existe-t-il une parenté entre Marin Onfroy, qui importa au XIIe siècle une nouvelle espèce de pomme, et Onfroy, gouverneur d'Hastings à l'époque de la conquête? Comment se procurer l'astucieuse Pythonis, comédie en vers d'un certain Du Trésor, faite à Bayeux et actuellement des plus rares? Sous Louis XVI, Hérambert Dupaty ou Dupastis Hérambert composa un ouvrage qui n'a jamais paru, plein d'anecdotes sur Argentan. Il s'agirait de retrouver ces anecdotes. Et que sont devenues les mémoires autographes de Madame Dubois de la Pierre, consultées pour l'histoire inaudite de l'Aigle par Louis d'Asprey, desservant de Saint-Martin? A autant de problèmes, de points curieux à éclaircir. Mais souvent un faible indice, mais sur la voie d'une découverte inappréciable. Donc ils revêtirent leurs blouses afin de ne pas donner l'éveil, et sous l'apparence de colporteurs, ils se présentaient dans les maisons demandant à acheter de vieux papiers. On leur en vendit des tas. C'étaient des cahiers d'école, des factures, d'anciens journaux, rien d'utile. Enfin, Bouvard et Pécuchet s'adressèrent à l'arçonneur. Il était perdu dans le celticisme et, répondant sommairement à leurs questions, en fit d'autres. Avait-il observé autour d'eux des traces de la religion du chien, comme on en voit à Montargis, et des détails spéciaux sur les feux de la Saint-Jean, les mariages, les dictons populaires, etc. Il les priait même de recueillir pour lui quelques-unes de ces haches en silex, appelés alors des Celtoé, et que les druides employaient dans leurs criminels holocaustes. Par gorgues, ils s'en procurèrent une douzaine, lui expédièrent la moins grande, les autres enrichirent le muséum. Ils s'y promenaient avec amour, le balayaient eux-mêmes, on avait parlé à toute leur connaissance. Un après-midi, Madame Bordin et M. Maresco se présentèrent pour le voir. Bouvard les reçut et commença la démonstration par le vestibule. La poutre n'était rien moins que l'ancien gibet de falaise, d'après le menuisier qui l'avait vendu, lequel tenait ce renseignement de son grand-père. La grosse chaîne dans le corridor provenait des oubliettes du donjon de Torteval. Elle ressemblait, suivant le notaire, aux chaînes des bornes devant les cours d'honneur. Bouvard était convaincu qu'elle servait autrefois à lier les captifs, et il ouvrit la porte de la première chambre. « Pourquoi toutes ces tuiles ?» s'écria Madame Bordin. « Pour chauffer les étuves. Mais un peu d'ordre, s'il vous plaît. Ceci est un tombeau découvert dans une auberge où on l'employait comme abreuvoir. » Ensuite, Bouvard prit les deux urnes pleines d'une terre qui était de la cendre humaine, et il approcha de ses yeux la fiole afin de montrer par quelle méthode les Romains y versaient des pleurs. « Mais on ne voit chez vous que des choses lugubres. » Effectivement, c'était un peu sérieux pour une dame. Et alors il tira d'un carton plusieurs monnaies de cuivre avec un denier d'argent. Madame Bordin demanda au notaire « Quelle somme, aujourd'hui, cela pourrait valoir ?» La cote de maille qu'il examinait lui échappa des doigts. Des anneaux se rompirent. Bouvard dissimula son mécontentement. Il eut même l'obligeance de décrocher la hallebarde et, se courbant, levant les bras, battant du talon, il faisait mine de faucher les jarrets d'un cheval de pointé comme à la baïonnette, d'assommer un ennemi. La veuve, intérieurement, le trouva un rude gaillard. Elle fut enthousiasmée par la commode en coquillage. Le chat de Saint-Alyre l'étonna beaucoup, la poire dans la carafe un peu moins. Puis, arrivant à la cheminée, « Ah, voilà un chapeau qui aurait besoin de raccommodage !» Trois trous, des marques de balles, en perçaient les bords. C'était celui d'un chef de voleurs sous le directoire, David de la Bazoque, pris en trahison et tué immédiatement. Oh, « Tant mieux, on a bien fait, » dit Madame Bordin. Maresco souriait devant les objets d'une façon dédaigneuse. Il ne comprenait pas cette galoche qui avait été l'enseigne d'un marchand de chaussures, ni pourquoi le tonneau de faïence, un vulgaire pichet de cidre, et le Saint-Pierre, franchement, était lamentable avec sa physionomie d'ivrogne. Madame Bordin fit cette remarque. Il a dû vous coûter bon, tout de même. Oh, pas trop, pas trop. Un couvreur d'ardoise l'avait donné pour 15 francs. Ensuite, elle blâma, vu l'inconvenance, le décolletage de la dame en perruque poudrée. « Où est le mal ?» reprit Bouvard. « Quand on possède quelque chose de beau ?» Et il ajouta plus bas, « Comme vous, je suis sûr. » Le notaire leur tournait le dos, étudiant les branches de la famille Croimard. Elle ne répondit rien, mais se mit à jouer avec sa longue chaîne de montre. Ses seins bombaient le taffetas noir de son corsage et les cils un peu rapprochés, elle baissait le menton comme une tourterelle qui se rengorge. Puis, d'un air ingénu, « Comment s'appelait cette dame ?»« Oh, on l'ignore. C'est une maîtresse du régent, vous savez. Celui qui a fait tant de farces. » Je crois bien, les mémoires du temps, et le notaire, sans finir sa phrase, déplora cet exemple d'un prince entraîné par ses passions. « Mais vous êtes tous comme ça !» Oh, les deux hommes se récrièrent, et un dialogue s'en suivit sur les femmes, sur l'amour. Maresco affirma qu'il existe beaucoup d'unions heureuses, parfois même... sans qu'on s'en doute, on a près de soi ce qu'il faudrait pour son bonheur. L'allusion était directe. Les joues de la veuve s'empourprèrent, mais se remettant presque aussitôt, « Nous n'avons plus l'âge des folles, n'est-ce pas, monsieur Bouvard ?»« Moi, je ne dis pas ça. » Et il offrit son bras pour revenir dans l'autre chambre. « Faites attention aux marches. »« Très bien. Bon, maintenant, observez le vitrail. » On y distinguait un manteau d'écarlate et les deux ailes d'un ange, tout le reste se perdant sous les plombs qui tenaient en équilibre les nombreuses cassures du verre. Le jour diminuait, des ombres s'allongeaient, Madame Bordin était devenue sérieuse. Bouvard s'éloigna et reparut affublé d'une couverture de laine, puis s'agenouilla devant le prie-dieu, les coudes en dehors, la face dans les mains, la lueur du soleil tombant sur sa calvitie. Et il avait conscience de cet effet, car il dit « Est-ce que je n'ai pas l'air d'un moine du Moyen-Âge ?» Ensuite, il leva le front obliquement, les yeux noyés, faisant prendre à sa figure une expression mystique. On entendit dans le corridor la voix grave de Pécuchet. « N'aie pas peur, c'est moi !» Et il entra, la tête complètement recouverte d'un casque, un pot de fer à oreillons pointus. Bouvard ne quitta pas le prie-dieu. Les deux autres restaient debout. Une minute se passa dans l'ébahissement. Madame Bordin parut un peu froide à Pécuchet. Cependant, il voulut savoir si on lui avait tout montré. « Il me semble, » et désignant la muraille. « Ah, pardon, non !» Nous avons ici un objet que l'on restaure en ce moment. » La veuve et Maresco se retirèrent. Les deux amis avaient imaginé de feindre une concurrence. Ils allaient en course l'un sans l'autre, le second faisant des offres supérieures à celles du premier. Pécuchet, ainsi, venait d'obtenir le casque. Bouvard l'en félicita et reçut des éloges à propos de la couverture. Mélie, avec des cordons, l'arrangea en manière de froc. Il la mettait à tour de rôle pour recevoir les visites. Ils eurent celle de Girbal, de Fourreau, du capitaine Heurtaut, puis de personnes inférieures, Langlois, Bellejambe, leur fermier, jusqu'aux servantes des voisins. Et chaque fois, ils recommençaient leurs explications, montraient la place où serait le bahut, affectaient de la modestie, réclamaient de l'indulgence pour l'encombrement. Pécuchet, ces jours-là, portait le bonnet de zouave qu'il avait autrefois à Paris, l'estimant plus en rapport avec le milieu artistique. À un certain moment, il se coiffait du casque et le penchait sur la nuque afin de dégager son visage. Bouvard n'oubliait pas la manœuvre de la hallebarde. Enfin, d'un coup d'œil, il se demandait si le visiteur méritait que l'on fît le moine du Moyen-Âge. Quelle émotion quand s'arrêta devant leur grille la voiture de Monsieur de Faverges. Il n'avait qu'un mot à dire, voici la chose. Hurel, son homme d'affaires, lui avait appris que, cherchant partout des documents, ils avaient acheté de vieux papiers à la ferme de la Aubry. Rien de plus vrai. N'y avait-il pas découvert des lettres du baron de Gonneval, ancien aide-de-camp du duc d'Angoulême et qui avait séjourné à la Aubry? On désirait cette correspondance pour des raisons des intérêts de famille. Elle n'était pas chez eux, mais ils détenaient une chose qui l'intéressait s'ils daignaient les suivre jusqu'à leur bibliothèque. Jamais pareille botte vernie n'avait craqué dans le corridor. Elles se heurtèrent contre le sarcophage. Il faillit même écraser plusieurs tuiles, tourna le fauteuil, descendit deux marches, et parvenu dans la seconde chambre, ils lui firent voir, sous le baldaquin devant le Saint-Pierre, le pot à beurre exécuté à Noron. Bouvard et Pécuchet avaient cru que la date quelquefois pouvait servir. Le gentilhomme, par politesse, inspecta leur musée. Il répétait « Charmant, très bien !» tout en se donnant sur la bouche de petits coups avec le pommeau de sa badine. Pour sa part, il les remerciait d'avoir sauvé ces débris du Moyen-Âge, époque de foi religieuse et de dévouement chevaleresque. Il aimait le progrès et se fut livré comme eux à ses études intéressantes. Mais la politique, le conseil général, l'agriculture, un véritable tourbillon l'en détournait. Après vous, toutefois, on n'aurait que des glanes, car bientôt vous aurez pris toutes les curiosités du département. Sans amour-propre, nous le pensons, dit Pécuchet. Et cependant, on pouvait en découvrir encore d'autres à Chavignolles, par exemple. Il y avait, contre le mur du cimetière, dans la ruelle, un bénitier enfoui sous les herbes depuis un temps immémorial. Ils furent heureux du renseignement, puis échangèrent un regard signifiant « Est-ce la peine ?» Mais déjà le comte ouvrait la porte. Mélie, qui se trouvait derrière, s'enfuit brusquement. Comme il passait dans la cour, il remarqua Gorju en train de fumer sa pipe, les bras croisés. « Vous en priez, ce garçon, un jour d'émeute, je ne m'y fierai pas. » Et M. de Faverges remonta dans son tilbury. « Ou alors bonne, semblait-elle en avoir peur ?» Ils la questionnèrent, et elle conta qu'elle avait servi dans sa ferme. C'était cette petite fille qui versait à boire aux moissonneuses quand ils étaient venus. 2 ans plus tard, on l'avait prise comme aide au château et renvoyée par suite de faux rapports. Pour Gorju, que lui reprocher ? Il était fort habile et leur marquait infiniment de considération. Le chemin dès l'aube, ils se rendirent au cimetière. Bouvard avec sa canne, tâta à la place indiquée. Un corps dur sonna, ils arrachèrent quelques orties et découvrirent une cuvette en grès, un fond baptismal où des plantes poussaient. On n'a pas coutume, cependant, d'enfouir les fonds baptismaux hors des églises. Pécuchet en fit un dessin, Bouvard la description, et ils envoyèrent le tout à l'arçonneur. Sa réponse fut immédiate. « Victoire, mes chers confrères, incontestablement, c'est une cuve druidique !» Toutefois, qu'ils y prissent garde, la hache était douteuse, et autant pour lui que pour eux-mêmes, il leur indiquait une série d'ouvrages à consulter. L'arçonneur confessait en post-scriptum son envie de connaître cette cuve, ce qui aurait lieu à quelques jours quand il ferait le voyage de la Bretagne. Alors, Bouvard et Pécuchet se plongèrent dans l'archéologie celtique. D'après cette science, les anciens Gaulois, nos aïeux, adoraient Kirk et Cron, Taranis, Zeus, Netalemnia, le ciel et la terre, le vent, les eaux, et par-dessus tout, le grand Teutates, qui est le Saturne des païens. Car Saturne, quand il régnait en Phénicie, épousa une nymphe nommée Anobrette, dont il eut un enfant appelé Géude. Et Anobrette a les traits de Sarah. Géude fut sacrifié, ou près de l'être, comme Isaac. Donc Saturne est Abraham, d'où il faut conclure que la religion des Gaulois avait les mêmes principes que celle des Juifs. Leur société était fort bien organisée. La première classe de personnes comprenait le peuple, la noblesse et le roi. La deuxième, les jurisconsultes. Et dans la troisième, la plus haute, se rangeaient, suivant taille-pied, les diverses manières de philosophes, c'est-à-dire les druides ou saronides, eux-mêmes divisés en eubages, bardes et vates. Les uns prophétisaient, les autres chantaient, d'autres enseignaient la botanique, la médecine, l'histoire et la littérature, bref, tous les arts de leur époque. Pythagore et Platon furent leurs élèves. Ils apprirent la métaphysique aux Grecs, la sorcellerie aux Persans, la ruspicine aux Étrusques et aux Romains, l'étamage du cuivre et le commerce des jambons. Mais ce peuple qui domine l'ancien monde, il ne reste de lui que des pierres, soit toutes seules ou par groupe de trois, ou disposées en galeries ou formant des enceintes. Bouvard et Pécuchet, plein d'ardeur, étudièrent successivement la pierre du poste à Ussy, la pierre couplée au Guest, la pierre du Jarrier près de l'Aigle, d'autres encore. Tous ces blocs d'une égale insignifiance les ennuyèrent promptement, et un jour qu'ils venaient de voir le menhir de Passet, ils allaient s'en retourner quand leur guide les mena dans un bois de hêtres, encombré par des masses de granit pareilles à des piédestaux ou à de monstrueuses tortues. La plus considérable est creusée comme un bassin. Un des bords se relève et du fond partent deux entailles qui descendent jusqu'à terre. C'était pour l'écoulement du sang, impossible d'en douter. Le hasard ne fait pas de ces choses. Les racines des arbres s'entremêlaient à ces rocs abrupts. Un peu de pluie tombait, au loin les flocons de brume montaient comme de grands fantômes. Il était facile d'imaginer sous les feuillages les prêtres en tiare d'or et orbe blanche, avec leurs victimes humaines, les bras attachés dans le dos, et sur le bord de la cuve, la druidesse, observant le ruisseau rouge, pendant qu'autour d'elle la foule hurlait au tapage des cymbales et des buccins faits d'une corne d'aurore. Tout de suite, leur plan fut arrêté. Et une nuit, par un clair de lune, ils prirent le chemin du cimetière, marchant comme des voleurs dans l'ombre des maisons. Les persiennes étaient closes et les masures tranquilles, pas un chien n'aboya. Gorgu les accompagnait, ils se mirent à l'ouvrage. On n'entendait que le bruit des cailloux heurtés par la bêche qui creusait le gazon. Le voisinage des morts leur était désagréable. L'horloge de l'église poussait un râle continu, et la rosace de son tympan avait l'air d'un œil épiant les sacrilèges. Enfin, ils emportèrent la queue. Le lendemain, ils revinrent au cimetière pour voir les traces de l'opération. L'abbé, qui prenait le frais sur sa porte, les pria de lui faire honneur d'une visite. Les ayant introduits dans sa petite salle, il les regarda singulièrement. Au milieu du dressoir, entre les assiettes, il y avait une soupière décorée de bouquets jaunes. Pécuchet la vanta, ne sachant que dire. « C'est un vieux rouan, » reprit le curé, « un meuble de famille. Les amateurs le considèrent, M. Marescot surtout. Pour lui, grâce à Dieu, il n'avait pas l'amour des curiosités, et comme il semblait ne pas comprendre, il déclara les avoir aperçus lui-même, dérobant le fond baptismal. Les deux archéologues furent très penauds, balbutière. L'objet en question n'était plus d'usage. Ah, n'importe, il devait le rendre. Sans doute, mais au moins qu'on leur permit de faire venir un peintre pour le dessiner. Soit, messieurs, entre nous, n'est-ce pas, dit Bouvard, sous le sceau de la confession. L'ecclésiastique, en souriant, les rassura d'un geste. Ce n'était pas lui qu'il craignait, mais plutôt l'arçonneur. Quand il passerait par Chavignoles, il aurait envie de la cuve, et ses bavardages iraient jusqu'aux oreilles du gouvernement. Par prudence, ils la cachèrent dans le fournil, puis dans la tonnelle, dans la cahute, dans une armoire. Gorju était là de la trimballer. La possession d'un tel morceau les attachait au celticisme de la Normandie. Ses origines sont égyptiennes. Cise, dans le département de l'Orne, s'écrit parfois S-A-I-S, comme la ville du Delta. Les Gaulois juraient par le taureau, importation du bœuf à pie. Le nom latin de Bellocaste, qui était celui des gens de Bayeux, vient de Belli Casa, demeure, sanctuaire de Bellus. Bellus et Osiris, même divinité. Rien ne s'oppose, dit Mangon de la Lande, à ce qu'il y ait eu près de Bayeux des monuments druidiques. Ce pays, ajoute M. Roussel, ressemble au pays où les Égyptiens bâtirent le temple de Jupiter Ammon. Donc, il y avait un temple et qui enfermait des richesses. Tous les monuments celtiques en renferment. En 1715, relate Don Martin, un sieur Héribel exhuma aux environs de Bayeux plusieurs vases d'argile pleins d'ossements et conclut, d'après la tradition et des autorités évanouies, que cet endroit, une nécropole, était le mont Faunus, où l'on a enterré le veau d'or. Cependant, le veau d'or fut brûlé et avalé, à moins que la Bible ne se trompe. Premièrement, où est le mont Faunus? Les auteurs ne l'indiquent pas. Les indigènes n'en savent rien. Il aurait fallu se livrer à des fouilles, et dans ce but, ils envoyèrent à monsieur le préfet une pétition qui n'eut pas de réponse. Peut-être que le mont Faunus a disparu, et que ce n'était pas une colline, mais un tumulus. Que signifiaient les tumulus? Plusieurs contiennent des squelettes ayant la position du fœtus dans le sein de sa mère. Cela veut dire que le tombeau était pour eux comme une seconde gestation, les préparant à une autre vie. Donc, le tumulus symbolise l'organe femelle, comme la pierre levée est l'organe mâle. En effet, où il y a des menhirs, un culte obscène a persisté. Témoin ce qui se faisait à Guérande, à Chichebouche, au Croisic, à Livaro. Anciennement, les bornes des routes et même les arbres avaient la signification de phallus. Et pour Bouvard et Pécuchet, tout devint phallus. Ils recueillirent des palonniers de voitures, des jambes de fauteuils, des verrous de cab, des pilons de pharmaciens. Quand on venait les voir, ils demandaient « À qui trouvez-vous que cela ressemble ?» puis confiaient leur mystère. Et si l'on se récriait, ils levaient de pitié les épaules. Un soir qu'ils rêvaient au dogme des druides, l'abbé se présenta discrètement. Tout de suite, ils montrèrent le musée, en commençant par le vitrail, mais il leur tardait d'arriver à un compartiment nouveau, celui des phallus. L'ecclésiastique les arrêta, jugeant l'exhibition indécente. Il venait réclamer son fonds baptismal. Bouvard et Pécuchet implorèrent 15 jours encore, le temps d'en prendre un moulage. « Le plus tôt sera le mieux, » dit l'abbé. Puis il causa de choses indifférentes. Pécuchet, qui s'était absenté une minute, lui glissa dans la main un napoléon. Le prêtre fit un mouvement en arrière. « Oh, pour vos pauvres !» Et M. Geoffroy, en rougissant, foira la pièce dans sa soutane. « Rendre la cuve au sacrifice ?» Jamais de la vie. Il voulait même apprendre l'hébreu, qui est la langue mère du celtique, à moins qu'elle n'en dérive. Et ils allaient faire le voyage de la Bretagne, en commençant par Rennes, où ils avaient un rendez-vous avec l'arçonneur, pour étudier cette urne mentionnée dans les mémoires de l'Académie celtique, qui paraît avoir contenu les cendres de la reine Artémise. Quand le maire entra, le chapeau sur la tête, sans façon, en homme grossier qu'il était.
« Ce n'est pas tout ça, mes petits pères, il faut le rendre. »«
Quoi donc ?»«
Farceur, je sais bien que vous le cachez. »
On les avait trahis. Ils répliquèrent qu'ils le détenaient avec la permission de monsieur le curé.
« Nous allons voir. »
Et Fourreau s'éloigna. Il revint une heure après.
« Le curé dit que non, venez vous expliquer. »
Ils s'obstinèrent. « D'abord, on n'avait pas besoin de ce bénitier, qui n'était pas un bénitier. Ils le prouveraient par une foule de raisons scientifiques. Puis ils offrirent de reconnaître dans leur testament qu'il appartenait à la commune. Ils proposèrent même de l'acheter. Et d'ailleurs, c'est mon bien, répétait Pécuchet. Les 20 francs acceptés par M. Geoffroy étaient une preuve du contrat. Et s'il fallait comparaître devant le juge de paix, tant pis. Il ferait un faux serment. Pendant ces débats, il avait revu la soupière plusieurs fois, et dans son âme s'était développé le désir, la soif, le prurite de cette faïence. Si on voulait la lui donner, il remettrait la cuve, autrement non. Par fatigue ou peur du scandale, M. Geoffroy la céda. Elle fut mise dans leur collection près du bonnet des Cauchossoises. La cuve décora le porche de l'église, et ils se consolèrent de ne plus la voir par cette idée que les gens de Chavignol en ignoraient la valeur. Mais la soupière leur inspira le goût des faïences, nouveau sujet d'étude et d'exploration dans la campagne. C'était l'époque où les gens distingués recherchaient les vieux plats de Rouen. Le notaire en possédait quelques-uns et tirait de là comme une réputation d'artiste, préjudiciable à son métier, mais qu'il rachetait par des côtés sérieux. Quand il sut que Bouvard et Pécuchet avaient acquis la soupière, il vint leur proposer un échange. Pécuchet s'y refusa.
« N'en parlons plus !»
Et Maresco examina leur céramique. Toutes les pièces accrochées le long des murs étaient bleues sur un fond d'une blancheur malpropre, et quelques-unes étalaient leurs cornes d'abondance au ton vert et rougeâtre, plats à barbe, assiettes et soucoupes, objets longtemps poursuivis et rapportés sur le cœur, dans le sinus de la redingote. Maresco en fit l'éloge, parla des autres faïences, de l'hispano-arabe, de la hollandaise, de l'anglaise, de l'italienne, et, les ayant éblouis par son érudition, « Si je revoyais votre soupière, Il la ficelait d'un coup de doigt, puis contempla les deux S peints sous le couvercle.
« La marque de Rouen, » dit Pécuchet.
« Oh, Rouen, à proprement parler, n'avait pas de marque. Quand on ignorait Moustier, toutes les faïences françaises étaient de Nevers. De même pour Rouen aujourd'hui. D'ailleurs, on l'imite dans la perfection à Elbeuf.
Pas possible.
On imite bien les majoliques. Votre pièce n'a aucune valeur. Et j'allais faire, moi, une belle sottise. »
Quand le notaire eut disparu, Pécuchet s'affaissa dans le fauteuil, prostré. « Il ne fallait pas rendre la cuve, » dit Bouvard, « mais tu t'exaltes, tu t'emportes toujours. »«
Eh, je m'emporte !» Et Pécuchet, empoignant la soupière, la jeta loin de lui contre le sarcophage. Bouvard, plus calme, ramassa les morceaux un à un. Et quelque temps après eut cette idée. Maresco, par jalousie, pourrait bien s'être moqué de nous.
Comment ?
Rien ne m'assure que la soupière ne soit pas authentique, tandis que les autres pièces qu'il a fait semblant d'admirer sont fausses peut-être. Et la fin du jour se passa dans les incertitudes, les regrets. Ce n'était pas une raison pour abandonner le voyage de la Bretagne. Il comptait même emmener Gorju, qui les aiderait dans leur fouille.